noches a todo el mundo. Bueno, primero que nada quería agradecer a estos compañeros espectaculares que me dieron la posibilidad de hacer el sueño realidad, al staff técnico, al médico, a la utilería y a la afición por haber apoyado todo el año. Muchísimas gracias, Vizca Barça y Vizca Cataluña.
Dynamicien, dynamicienne, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de quand vous nous écoutez, c'est ça la magie du podcast. L'Espagne a prouvé à de nombreuses reprises qu'elle est une nation majeure du football, que ce soit avec son championnat ou la sélection nationale. Le pays s'est démarqué par la qualité de son football, mélangeant avec succès la beauté du jeu, le spectacle et l'efficacité. Il suffit de voir la Roja qui a ébloui les amateurs de ballon rond. Étant à l'origine du fameux tiki-taka, ce style de jeu aura permis aux hommes de Vicente del Bosque de réaliser un triplé historique en remportant l'Euro deux fois d'affilée et la prestigieuse Coupe du Monde en Afrique du Sud. Du côté du championnat espagnol, la Liga offre chaque saison son lot de buts magistrales et de rencontres à ne manquer sous aucun prétexte. Bien que certaines équipes comme l'Atlético de Madrid, Séville, Villarreal ou encore Valence ont des histoires prestigieuses ou des joueurs qui ont forgé leur légende, la Liga attire tous les regards grâce à deux clubs qui ont divisé le globe terrestre en deux camps pour savoir lequel est le plus grand de tous les temps. Deux des rares équipes à rester constamment dans l'élite du football, deux institutions considérées comme des références indiscutables de ce sport. Chaque classico devient un événement planétaire, chaque rencontre met les émotions de chaque supporter à rude épreuve. Depuis toujours, je suis un immense fan du Real Madrid, le plus grand club du monde, c'est factuel, je ne veux rien savoir. Pleurez dans vos coins si vous n'êtes pas content. Dans les bons comme dans les mauvais moments, j'ai toujours soutenu les merengues. Mais par objectivité et honnêteté, je suis obligé de reconnaître que durant la décennie 2010, son grand rival historique était plus qu'impressionnant. Que ce soit sous Guardiola ou Luis Enrique, les Catalans ont tout simplement dominé le football sur la scène européenne. Peut-être pas en termes de titres, mais certainement au niveau tactique. Les supporters parlaient même de poésie balle au pied. Grâce à son jeu, son histoire, son palmarès, ses légendes intemporelles, sa philosophie, son efficacité et sa puissance offensive, le FC Barcelone est considéré comme l'une des plus grandes équipes du monde et l'un des plus beaux clubs à voir jouer lors de la dernière décennie. Cette semaine, au cœur d'une émission spéciale, nous allons revenir sur les joueurs, les entraîneurs, les moments qui ont forgé la légende et la réputation des Blaugrana. Autant vous dire que ça me coûte vu que je supporte le camp adverse. Mais vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de complètement culte. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement et en toute logique, complètement catalan. Et avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, ceux qui vont vous accompagner. En tant que supporter du Barça depuis sa tendre enfance, autant vous dire qu'il va se régaler. Maxime.
Hello, hello à tous les gars, vous m'avez manqué, ça fait super plaisir.
Un invité particulier pour moi. Nos chemins se sont croisés il y a presque 10 ans dans la faculté d'architecture. Mais hormis bien se marrer et retourner les ateliers, on s'est rendu compte que ces études ne nous étaient pas destinées. Depuis, nous avons trouvé nos voies et on a fait des étincelles à notre manière. Lui avec un appareil photo et une caméra, moi avec un micro et une tablette de mixage. Je suis ravi de le retrouver pour parler de son équipe préférée. Au fil du temps, en le côtoyant, il a eu tellement de surnoms. Cheveux oxydés, le sage des femmes à poil, la souka des souka, Berus, Kahba de souk. Mais pour vous, ce sera tout simplement Berry.
Salut à tous les gars. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un truc vraiment intéressant.
Et on a également un invité qui est venu de la part de Maxime. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui vont découvrir ce podcast ?
Donc, salut à tous et à toutes, c'est Malik et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous trois. Je pense qu'on va s'amuser.
Ah, il y aura des choses très intéressantes,
pimentées.
Et ne perdons pas de temps, car au sommaire de Complètement Catalan, beaucoup de choses pour un temps limité. Le FC Barcelone et son héritage seront les lignes conductrices de notre programmation spéciale. Vous n'aurez pas un, mais deux versus. Le premier sera une confrontation entre les trios mythiques et dévastateurs de la Liga, à savoir la MSN du Barça et la BBC du Real Madrid. Le second verra s'affronter Pep Guardiola et Luis Enrique, les deux coachs qui ont marqué le banc catalan lors de la dernière décennie. La légende du Barça est l'un des plus grands joueurs de tous les temps, peut-être même le plus grand. La Pulga, Lionel Messi, sera l'élève de notre conseil de classe. L'ancien défenseur et champion du monde, Gérard Piqué, sera au cœur de la rubrique Génie ou Escroc. Et pour conclure, le débat portera sur l'état actuel du club qui est en grande difficulté depuis quelques saisons. On se demandera que faut-il au Barça pour se relancer et redevenir cette menace qu'elle fut autrefois. Mais vous le savez, on démarre toujours cette émission par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes.
Every club, Lille, yeah, Visca Barça, à la Madrid. The guys that you write à la Madrid, fuck you, okay? I'm serious. Fuck you, okay? Now everyone will, you will see à la Madrid, everyone.
C'est votre moment, vous parlez de ce que vous voulez, un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, une news, quelque chose que vous avez envie de nous partager. C'est votre instant, c'est votre moment, donc allez-y, exprimez-vous. Maxime, on commence par toi.
Bah écoute, j'ai vu pas une très bonne nouvelle en Nico Williams qui a vraiment éclaboussé par son talent cet euro. Il commence à faire une petite virgule au Barça et se dirige tout doucement vers le PSG. Donc voilà, écoute, c'est parfois un peu plus compliqué. On sait le passé des joueurs qui sont passés par le PSG et comment est-ce qu'ils se sont éteints à petit feu au fur et à mesure. Après, on sait aussi que c'est parfois bien aussi pour se lancer en regardant Vitinha et tout ça. Donc c'est un point d'interrogation, mais je suis un peu déçu.
Mais après, il y a Luis Enrique. Le PSG, c'est plus du tout la même chose depuis une saison.
Ouais, écoute,
on sait qu'il y a une autre philosophie.
Ouais, on disait la même chose avec Carlo Ancelotti, avec Thomas Tuchel.
Ça n'a rien à voir. C'était le début de l'ère QSI. C'est dommage. Il y a le Thierry Gilardi en moi réveille. Pas après tout ce que tu as accompli.
Après,
pas maintenant.
Après, vaut mieux qu'il parte quand il a 21 ans au PSG, qu'il éclabousse par exemple de son talent en Liga au Barça et qu'à 25 ans, il vienne.
Le facteur Luis Enrique est très important. C'est, comme tu l'as dit, c'est plus le PSG il y a quelques années. Luis Enrique est très important maintenant dans le club. Il prend de plus en plus de responsabilités.
Ouais,
surtout quand on sait que Luis Enrique a lancé Nico Williams en équipe nationale. À la Coupe du Monde 2022, notamment. Ouais. C'est plutôt un choix logique.
C'est vrai que là maintenant, le PSG, ils ont un peu changé depuis que Luis Enrique il est là. Parce qu'ils l'ont laissé un peu plus de rênes par rapport aux entraîneurs qu'ils avaient auparavant.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Peut-être que ça peut aider, mais moi, de ce que j'ai entendu, c'est qu'il va rester à Bilbao.
Ça se chatouille un peu, on sait pas un peu.
Excuse-nous, Fabrice Di Romano.
Il
a des news que nous on n'a pas.
Ah, je vous ai pas dit, mais voilà.
Ou alors ça peut être un peu elle, ceci. Mbappé n'ira jamais au PSG.
Bon, même si ça fait 2 semaines que c'est terminé, j'avais envie de faire un petit bilan de la dernière édition de l'Euro qui se tenait en Allemagne, l'Euro 2024. Je sais pas vous, moi j'ai trouvé la compétition en général assez décevante. Il n'y avait pas d'engouement, il n'y avait pas de spectacle, c'était assez ennuyeux. Quelques matchs qui ont tenu leurs promesses. Il y a des équipes qui ont vraiment émerveillé. Je pense à l'Espagne qui mérite totalement le titre. Là, vraiment, il n'y a pas de débat. Même si j'étais un peu pour l'Angleterre et ça me fait mal au cœur pour Cole Palmer qui avait égalisé. Je me suis dit, vas-y, c'est enfin, let's go home. Et ben non, voilà, toujours pas. Voilà, Harry Kane, l'armoire à trophées va rester vide encore une saison de plus.
C'est scandaleux.
Mais honnêtement, à part ça, ça ne m'a pas emballé. Les grands favoris ont déçu. Je pense à l'Allemagne, je pense à la France, le Portugal, qui malheureusement continue à s'entêter avec un CR7 capitaine en pointe. Et Dieu sait que je suis fan de lui, mais à un moment, il faudrait peut-être penser à la passation. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cet Euro de façon générale?
Moi, je pense que, comme tu as dit, les grandes équipes, elles n'ont pas répondu présentes. Et sans les petites équipes, ce serait encore plus pauvre.
C'est eux qui ont volé le show.
Ouais, regardes juste la Turquie, tu regardes la Géorgie, ce qu'ils ont fait.
J'allais en parler de la Géorgie. C'était quali au niveau
qualitatif.
La Slovénie aussi.
Ouais.
La Slovénie,
la Roumanie.
Le premier tour de la Roumanie,
c'était pas mal, tu vois. Après, ils se sont fait sortir, mais c'était déjà pas mal. Et au niveau du spectacle, c'est un peu grâce à eux qu'on a eu quelque chose.
Ah oui, et la grande déception, c'est le tenant du titre, l'Italie, qui se fait éliminer par la Suisse. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas là. Honnêtement, au début, c'était prometteur. Tu te dis, OK, il y a moyen qu'ils fassent quelque chose. Et rien.
C'est à l'image des dernières années. Hein,
Il n'y a pas eu de match marquant. Il y en a eu notamment en 2021. Enfin, l'Euro 2020, 2021. Il n'y a pas eu de match marquant, il n'y a pas eu de prestations abouties.
Après, la belle surprise, c'est vraiment l'Espagne. Quoi. Le jeu, moi, je suis vraiment heureux parce que pour moi, toi, le foot, il a gagné en vrai. Ouais. C'est la première fois depuis peut-être 5 ans. Je n'ai pas envie de faire Mbappé avec des phrases clichés. Hein, mais c'est la première fois où je vois vraiment la technicité qui a primé sur la tactique. Mm-hmm. Tu voyais que c'était des gens et puaient le football. On avait l'impression un peu de se replonger dans un Espagne 2010.
Ouais,
bon, après, avec différents, tu vois. Mais je veux dire, ils avaient cette identité footballistique-là. Donc, c'était vraiment la belle surprise.
C'est surtout le triomphe de la nouvelle génération qui est incarné par Lamine Yamal et Nico Williams.
Et puis même des joueurs qu'en club n'étaient pas ouf. Moi, je pense à
Fabien
Ruiz. Là, ouais.
Fabien Ruiz, franchement.
Et il avait faim, non, il avait les crampons en main là, mais
il a pas joué comme à Paris.
Mais ça faisait très longtemps qu'une équipe n'avait pas autant écrasé une compétition.
Sept matchs, sept victoires.
C'était une claque. Même en 2010, ils ont pas fait ça, ils ont perdu contre la Suisse.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est possible. J'ai pas le souvenir d'un vainqueur aussi, enfin du début jusqu'à la fin de la compétition dominant aussi.
Surtout, ils ont pas eu un coup de mou dans la compétition.
Et surtout le calendrier, ils sont.
Ils étaient en finale, France-Denis.
Ils étaient dans le groupe de la mort avec la Croatie, l'Italie et l'Albanie.
C'est surtout la grande victoire du sélectionneur Luis de la Fuente qui a fait taire les critiques.
Mais je pense quand même qu'il y a un truc qui se passe en Espagne. Là. Je sais pas, il y a encore les U19, je crois, qui ont gagné l'Euro.
Oui, ils ont gagné l'Euro.
Là, maintenant. Il se passe un truc en Espagne, les filles qui gagnent tout le temps.
C'est souvent comme ça. Il y a des creux et puis tu as des nouvelles générations dorées qui vont. Je pense à l'Allemagne, ça a souvent été le cas.
Même si l'Allemagne a déçu par sa défaite, honnêtement, la génération qui est en train de se dessiner, elle est assez prometteuse pour les années à venir, voire même la prochaine Coupe du Monde. Donc, honnêtement, l'Allemagne, faut pas l'enterrer. La grande déception, c'est la France. Avec une équipe pareille, proposer autant d'anti-jeux.
Je vais même pas te dire là. Moi, de ma vie entière, j'ai vu des grands joueurs. Non, mais des grands joueurs rater une compétition. Mais de ma vie entière, je regarde vraiment le foot depuis 2008. J'ai jamais vu un grand joueur du moins de ce statut autant rater une compétition qu'un Mbappé.
C'est le masque.
C'est la politique aussi. On a entendu qu'il sortait pas bien.
À chaque fois, il y avait des excuses. Allez. C'est ça le problème.
Bardella s'était fait niquer. Moi, je pensais qu'il allait te mettre un triplé contre l'Espagne. Il a mis 3 frappes au-dessus. S'il te plaît.
Sans transition, comme on dit dans ces cas-là, le FC Barcelone. Émission spéciale sur le club catalan. Ça évoque quoi pour vous, le FC Barcelone? C'est quoi votre rapport avec cette équipe? Je connais déjà la réponse, mais allez-y.
Mais moi, en toute objectivité, parce que moi, je suis fan du Barça, mais je suis surtout fan de joueurs. Pour moi, le FC Barcelone, c'est ceux qui ont eu les plus grands joueurs dans l'histoire du football, encore plus peut-être qu'au Real de Madrid, qui est pour moi la plus grande institution. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a eu des Maradona, des Cruyff, des Ronaldinho, Messi, Neymar, des Suarez et tout. T'en as eu des vertes et des pas mûres. Donc pour moi, c'est vraiment l'individualisme qui me surprend et qui, pour moi, catégorise le mieux cette institution.
Berry.
Ah, moi, pour moi, c'est l'amour du maillot, en fait, tout simplement. Moi aussi, je suis fan de foot, déjà de base, que j'en fais depuis que je suis tout petit. Mais le Barça, depuis 2003 maintenant, depuis l'époque de Ronaldinho.
Ah oui, toi, t'as connu l'époque de Frank Rijkaard.
Quand j'étais tout petit, tu vois, 2003, je devais avoir 6 ans.
Ah, c'était quelque chose quand même, maintenant que j'y pense. Il y avait Marquez, Puyol, Messi, Deco.
Ouais, Deco, tout ça, c'est des joueurs qui m'ont marqué. Et surtout, si je prends le cas de Messi, c'est un joueur que j'ai vu commencer. Et là, je suis en train de voir sa fin, ça me fait quelque chose, tu vois.
Mais quelle fin, par contre.
Mais quelle fin. Depuis 2016, là, il est remonté.
Il y aura un conseil de classe, vous pourrez faire son éloge si vous voulez.
On va parler de ça.
Malik.
Pour moi, tout simplement, c'est mon équipe préférée. Si je me souviens bien, le premier souvenir que j'ai, c'est...
Je suis vraiment en terrain ennemi, ce soir.
Oui, en terrain ennemi, là, t'es pas bien, là.
Tu peux au moins te dire que t'es face à des spécialistes du club. Mais mon premier souvenir, c'est le triplé de Messi, son premier classico, deuxième classico.
C'est quand il a 18 ans. Peut-être
2007, 2008. Je me dis que c'est aujourd'hui que ça va devenir mon équipe préférée pour le restant de ma vie. Moi, j'ai surtout ce truc avec l'équipe. Quoi. J'arrive à me représenter dans cette équipe depuis le début. C'est cette façon de jouer qui est propre à cette équipe. C'est la vision que j'ai du football et surtout ce que je recherche quand je regarde un match de football.
Pareil.
Le ton est donné pour cette émission spéciale. Et on va commencer sans plus attendre avec le premier versus de complètement catalan entre MSN et la BBC. Get ready for the next battle.
Tu veux qu'on se la donne, dis ? Tu veux qu'on se la donne ?
Mmh. Du côté de la Liga, la rivalité Real Madrid-FC Barcelone alimente le championnat espagnol depuis des décennies, depuis sa création même. La grande majorité des fans résume la Liga que par l'histoire et l'héritage de ces deux grands clubs espagnols. Pendant toute une décennie, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont monopolisé le milieu du football avec leur rivalité unique et légendaire. On a tendance à l'oublier, mais le football est un sport collectif. Malgré leur talent inégalable, ils sont parvenus à battre des records et à remporter autant de titres grâce à des coéquipiers de classe mondiale. Durant la décennie 2010, le Barça et le Real ont connu dans leur effectif respectif deux trios offensifs de prestige et d'une efficacité exceptionnelle. Du côté des Catalans, on avait la MSN. Un trio constitué de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar Junior. Pendant trois saisons, ces artistes balle au pied ont défini le football par leur alchimie sur leur terrain, leur qualité technique et leur aisance à trouver le chemin des filets. Et du côté de la capitale espagnole, le Real Madrid possédait la BBC, un trio qui était constitué de Gareth Bale, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Avec CR7 en chef de bande, eh bien ils ont réussi à remporter 4 Ligues des Champions, dont 3 d'affilée. Autant vous dire que c'était une efficacité devant les cages qu'on avait rarement vue sous les ordres de Carlo Ancelotti et de Zinedine Zidane. Deux trios iconiques, deux trios efficaces, deux trios qui ont marqué l'histoire du football moderne. Mais entre les deux, quel est le plus culte? Quel est celui qui a le plus marqué les esprits? Quel est le meilleur? C'est ce qu'on va essayer de savoir tout de suite, mais avant de rentrer dans le versus à proprement parler, ça évoque quoi pour vous, MSN, BBC? Maxime.
C'est l'égérie Ronaldo-Messi, donc c'est une continuité du débat. Peut-être on est face au, même très certainement pour moi, les deux plus grands trios d'attaque de l'histoire du football. D'un côté, on avait le football pur. D'un autre côté, on avait le football statistique, donc c'est un peu polarisant, mais c'est deux institutions différentes et deux institutions un peu à l'image de leur club. Donc voilà, on sûrement...
Pour continuer ton propos, c'est deux manières de concevoir le football.
Ce que je dis, ouais, vraiment.
Messi, c'est l'artiste, c'est le talent inné. Voilà. Et de l'autre côté, Cristiano Ronaldo, c'est le travail, l'efficacité, le mec qui chôme pas.
Évidemment, c'est un talent monstre, Ronaldo, faut pas oublier. Mais voilà, donc deux institutions différentes, mais très certainement, pour moi, les deux plus grands trios d'attaque de l'histoire du football.
Berry.
Pour moi, c'était vraiment deux trios incroyables. C'est sûr, il n'y a rien à dire. Après, moi, je ne vais pas faire semblant et dire que je préfère la BBC. Non, c'est sûr et certain que pour moi, la MSN...
Tu mens.
Non, la MSN, c'est sûr, m'a plus fait rêver. Si maintenant, on sort un peu des statistiques, juste quand tu regardais l'entente qu'il y avait sur le terrain, même hors du terrain, c'était juste impressionnant.
Surtout avec un Brésilien, un Uruguayen et un Argentin, qui sont normalement une compète, tous les trois capitaines et marques de fabrique de leur équipe nationale. Là, c'est marrant aussi, ça.
Et ce qui est très marrant, c'est que Neymar a failli rejoindre le Real avant de signer avec le FC Barcelone.
Et après aussi.
Malik.
Pour moi aussi, c'est deux trios exceptionnels qu'on a eu la chance de vivre au même moment, dans le même championnat. Quand on y pense, c'était vraiment une chance qu'on avait chaque week-end, chaque journée. C'était, ils se disputaient
ils se disputaient à distance.
C'est ça.
Après, ils n'auraient peut-être pas été aussi iconiques s'ils n'avaient pas été en même temps.
Oui, voilà, c'est cette proximité entre les deux. On les retrouvait chaque week-end. Je me souviens qu'il y avait des journées où la BBC mettait un triplé. La journée d'après,
de l'autre côté, ça répondait.
On avait au sommet du classement.
Je suis nostalgique, arrêtez, les gars.
Quand on y repense, vraiment, on avait.
Le football, il a changé.
Et on n'a plus ces trios, on n'a plus ça dans le football actuel, même si j'ai l'impression qu'on parle d'un football.
On l'a un peu revécu durant cet Euro avec le trio Nico Williams, Lamine Yamal et Alvaro Morata. C'est pas le même prestige, mais
pas la même chose avec
il y avait quand même une certaine connexion, tu vois, sur
avec
le terrain.
Football technique, quoi. Voilà,
comme Berry l'a dit, j'avais une préférence pour la MSN parce que je ressentais cette alchimie entre les trois. C'est comme tu as dit, que ce soit sur le terrain et en dehors des terrains, alors que de l'autre côté, la BBC, j'ai l'impression que c'était.
C'était robotisé. C'était robotisé.
Je me souviens qu'il y avait une déclaration de Ronaldo qui avait dit que nous, on n'a pas besoin d'aller au restaurant pour être des meilleurs amis. Ou voilà, nous, on est là, on fait notre travail.
De toute façon, même ça se voit.
Ça
s'est vu même après.
J'ai pas l'image marquante de. Enfin, on connaît cette célèbre photo de Messi, Neymar et Suarez.
Elle voulait tout dire. Elle voulait tout dire.
J'ai pas d'image comme ça de la BBC.
Après aussi, il y avait pas une telle hiérarchie aussi dans la MSN qu'il y avait à la BBC.
Exactement. Voilà,
la
oui,
BBC,
voilà, oui,
c'était
voilà.
Ronaldo, et puis t'avais un peu ces deux soldats. Alors que la MSN, ça restait Messi la tête d'affiche, c'est mais ça. T'avais Neymar quand Messi performait pas, c'était lui qui reprenait la tête de l'équipe. T'avais un Suarez qui pouvait aussi faire le taf.
On l'a bien vu aussi quand Messi, je pense en 2016, il s'était blessé à un moment. Et tu vois Neymar,
13 matchs,
Neymar chauve là.
13 buts, 8 assists en 10 matchs.
J'ai souvenir d'un classico à Bernabéu, le 4-0. Messi n'est pas là et tu sens que.
Il est perdu, les familles.
Non. Je ne vais pas poser des questions alors que je connais la réponse. Je sais très bien que vous préférez le trio MSN par rapport à la BBC. Mais avant d'enchaîner avec une autre question, quelques chiffres. Alors, la MSN a existé pendant 3 saisons, de 2014 à 2017. C'est 451 matchs pour 364 buts et 272 passes décisives. Mais la BBC du côté du Real Madrid, elle a existé un peu plus longtemps, c'était de 2013 à 2018. C'est 658 matchs pour 442 buts et 243 passes décisives. Bon, c'est pas comparable parce qu'ils ont eu 2 saisons de plus pour se confirmer. Mais on sent quand même que malgré 3 petites saisons en face, ils ont quand même plus de passes décisives que la BBC. Donc ça montre quand même une certaine connexion entre les 3. Mais lequel fut le plus efficace? Parce que certes, il était plus beau à jouer, mais si vous regardez le palmarès, la MSN, c'est 9 trophées, alors que la BBC, en 5 ans, c'est 14. Et 4 Ligues des Champions, dont 3 d'affilée sous l'ère Zinedine Zidane. Donc maintenant, lequel a le plus marqué les esprits? Lequel a été le plus performant?
Alors, je pense le plus marqué les esprits, en toute objectivité, sera la MSN. Parce que,
en termes de football.
En termes de football, je pense qu'on est arrivé au pic de ce qu'un trio pouvait faire.
Mais ne dit-on pas que l'histoire se remémore les titres?
Peut-être, mais je pense que quand tu laisses une trace indélébile d'un passage aussi performant dans l'histoire du football, tu marques les esprits. Et encore aujourd'hui, je pense qu'en toute objectivité, on mettra la MSN, pour moi, je crois, le plus grand trio de l'histoire. Mais c'est vrai que si on regarde statistiquement ce qu'a fait la BBC, qu'on soit barcelonais ou pas, c'est gargantuesque. Enfin, trois LDC d'affilée, c'est monumental, avec un Ronaldo monumental.
Même avec, si on doit parler d'autres trios qui étaient, on va dire, derrière eux, Casemiro, Modric et Kroos, ça fait très peur déjà ce qu'ils ont fait. Trois Ligues des Champions. Enfin, au total, 6 Ligues des Champions, je pense.
6 Ligues des Champions.
Peut-être pas Casemiro, parce qu'il est parti un peu avant.
Si, en 2022, il était encore là. Donc, je pense qu'il y avait...
Non, il a 5. Mais comme Kroos et Modric, ils ont eu leur 6e là maintenant. Et ça fait vraiment peur au niveau des stats, tu vois.
C'est déjà arrivé dans l'histoire des gens qui avaient 6 Ligues des Champions?
Non. Là, c'était la première fois, je pense.
Ils étaient plusieurs à 5 Ligues des Champions, mais là, depuis...
Avec Carvajal, Nacho...
Mais pour revenir au débat...
Il a un nom de chips, qu'est-ce qui se passe?
Pour revenir au débat sur la BBC, ce qui peut être un peu faussé nos souvenirs, quoi. Moi j'ai le souvenir d'une BBC, mais aussi de Isco qui est là sur deux finales. C'est lui qui jouait.
C'était
Benzema, Ronaldo et Isco.
Et Gareth Bale.
C'est
pour ça que peut-être dans les images un peu marquantes, surtout ces finales de Ligue des Champions, Bale n'est pas titulaire. C'est pas la BBC, c'est Ronaldo, Benzema et Isco.
C'est vrai, c'est vrai. On a tendance à l'oublier. Et quel joueur c'était par contre lui.
Après, c'est surtout des acronymes très iconiques. La MSN, ça rappelle le réseau social. BBC, la chaîne de télé. Donc voilà, je pense que ça n'a pas été choisi au hasard. Et que les trios qui ont suivi n'ont pas été aussi iconiques. D'ailleurs, il y a eu d'autres trios dans l'histoire du football dans la même époque. On a eu Xavi, Iniesta, Busquets, par exemple, du côté du FC Barcelone. Ou sinon, si on va en Première Ligue à Liverpool, il y avait Salah, Mané, Firmino, qui ont aussi marqué un peu les esprits, notamment en 2019 avec la Ligue des Champions remportée. Et puis, du côté de Manchester City, il y avait De Bruyne, Rodri, Silva.
Dans un autre registre, tu faisais référence au trio de Liverpool. C'est celui que je trouvais qui se rapprochait le plus de la MSN dans cette notion de plaisir. Voilà, c'est ça. On sentait aussi que, même si par la fin, ça s'est un peu gâté entre Salah et Mané.
Surtout avec la Coupe d'Afrique.
On sentait que même l'année où ils remportent la Ligue des Champions, il y avait ce truc entre eux où c'était aussi du football plaisir, où ça n'hésitait pas à échanger. Je me rappelle de Firmino qui était vraiment ce joueur qui faisait...
Firmino, c'était vraiment le lien entre les deux autres.
Un peu le Benzema de la BBC. Il était là pour faire jouer les deux autres. Il y avait vraiment ce truc
il y avait
de
aussi
plaisir.
Encore cette innocence, ça faisait deux ans qu'ils étaient au haut niveau. Ouais, tu vois, c'est, ils jouent un peu comme au quartier.
Moi, je pense qu'il y a aussi un trio qu'on oublie un peu. Pour ceux qui connaissent vraiment, vraiment le foot, ben, il y a le trio Cavani, Lavezzi, Hamzik.
Ah, le PSG. Du côté de Naples.
Ça, ah, du Naples.
Ouais,
de Naples.
Parce que Lavezzi, Cavani, pour moi, c'était PSG.
Non, Hamzik.
Parce que Cavani et Lavezzi ont rejoint par après le PSG.
J'ai pas connu trop ça.
Donc, non, mais c'est vrai.
Moi, dans les années 2010, c'était vraiment...
impressionnant.
Et ils avaient fait une excellente saison et le PSG avait jeté leur dévolu sur d'abord Lavezzi, ça a été un flop du côté du PSG, et puis Cavani, qui lui, pour le coup, était un excellent transfert.
Il l'a confirmé, mais ils l'ont un peu...
Bah, ils voulaient Hamzik aussi, ils voulaient reformer ce trio. Ouais, c'était vraiment l'objectif. Il y avait une nombreuse rumeur d'Hamzik au PSG, mais au final...
C'est pur, ça.
Ouais, lui, il avait vraiment ce truc de... Il aimait vraiment Naples, Hamzik. Ouais. Je pense qu'il
a
pas
fait toute sa carrière
là-bas.
Ouais,
mais non, je pense que vers la fin,
il est retourné au pays.
Dans le pays, mais...
Il a fait la majorité de sa
carrière. Et pour rester sur le PSG, il y avait un autre trio qui aurait pu devenir iconique en termes de prestige. Ouais. Mbappé, Messi, Neymar. Quel gâchis, ça aussi. Non, mais sur le papier, quand tu vois ça, tu te dis comment ils n'ont pas pu triompher. Mais tu te rends compte que les égos ont pris le dessus.
Il y a un joueur.
Mobutu.
Lui-même, en personne.
Non, mais il a raison. Je pense qu'il y a eu un problème d'égo où Mbappé s'est pris pour un joueur qu'il n'était pas encore. Ou qu'il était en train de devenir.
Non,
il était monstrueux.
Kylian, le dictateur, quoi. Le mec, il voulait être la star du PSG. Il a réussi à évincer un à un Neymar et Messi.
C'est une dinguerie quand tu penses.
Bon, même si Messi est en fin de carrière, Neymar, pour moi, ouais, mais il avait quand même de belles années devant lui. Il a pas
c'est un Brésilien.
Je pense surtout ce qui a pas marché, c'est que dans l'idée principale du PSG, c'était vraiment on voulait faire quelque chose de marketing. Ouais. Alors que la BBC, la MSN, c'était pas du tout. On était vraiment dans le sportif. On voulait rassembler les meilleurs attaquants.
De résultats aussi. Tu vois.
Voilà, c'est ça. Alors que le PSG, on avait vraiment l'impression que c'était on a pris Messi parce qu'on voulait faire quelque chose de.
Parce que c'était un peu pour le truc aussi avec Neymar.
C'est ça exactement.
En fait, on a vu une différence aussi quand Neymar il est parti du Barça et quand Messi est arrivé au PSG avec Neymar.
C'est ça, c'est
on a senti directement qu'il voulait l'accueillir en fait. Tu vois, Neymar, il voulait l'accueillir et faire les choses de la meilleure manière possible. Contrairement à Mbappé qui voulait, c'est l'impression qu'on a, on n'était pas en interne, qui voulait un peu prendre les devants en fait.
Même si au début ça présageait de bonnes choses, mais au final.
Ou même le début de la saison passée, avant que Neymar parte.
Avant la Coupe du Monde 2022.
Pour moi, c'était le meilleur trio
actuel. La première partie de saison avant la Coupe du Monde.
Neymar et tout ça, des Messi, Neymar et Mbappé.
Je pense que le moment de bascule, c'est cette finale, peut-être, même si ça a un peu commencé avant, mais la finale France-Argentine, je pense que dans le.
Peut-être au JO, Léo.
On n'a pas voulu acclamer Léo aussi au Parc des Princes.
Il y a tout ça.
Il y a toutes les choses qui ont fait.
Je trouve ça bizarre un peu, tu vois.
Bon, revenons sur la BBC et la MSN. Alors, on a remarqué au niveau de la MSN, même si Messi était la star de ce trio, ça allait. Quand l'un n'allait pas bien, l'autre prenait ses responsabilités. Ouais. Alors que du côté de la BBC, c'était Ronaldo le patron, c'était lui la vitrine du club. Et il faut quand même saluer le comportement de Gareth Bale et Karim Benzema qui ont accepté d'être les seconds, d'être les faire-valoir de Cristiano Ronaldo. Et Benzema a accepté ce rôle-là jusqu'au départ de Cristiano. Et après, il est vraiment devenu la tête pensante de l'équipe. Et là, pour le coup, on voit quand même le professionnalisme de Karim Benzema et il mérite totalement son ballon d'or et il a enfin eu le moment de briller.
Mais après, il ne pouvait pas à côté de Ronaldo à cette époque-là.
Ah non, ça c'est sûr. Mais par rapport à ça, donc Messi et Ronaldo ont été au centre de tous les débats et intentions. Ont-ils, malgré eux, éclipsé leurs coéquipiers qui ont contribué à l'efficacité offensive ?
D'un côté, oui, à la BBC, c'était l'équipe de Ronaldo, c'était pas l'équipe de la BBC, alors qu'à la MSN, au début, c'était l'équipe, donc dans les années 2009-2010 de Messi, et avec la MSN, ça a été la MSN. Tu vois, c'était plus Messi toujours, voilà, ça reste Messi, mais c'était la MSN, c'était eux, leur armada offensive, à l'instar du Real de Madrid.
Surtout quand on voit l'après-MSN et l'après-BBC, on a vraiment senti que Benzema, le départ de Bale et de Ronaldo, c'est devenu le meilleur joueur du monde par la suite. Alors qu'on a l'impression que Suarez et Neymar, ils n'ont jamais été aussi meilleurs que lorsqu'ils étaient avec Messi, alors que
mais,
Benzema...
Mais je trouve quand même qu'un Benzema, il n'a pas forcément changé son style de jeu. Contrairement à un autre où ça a peut-être un peu plus marqué, c'est un Gareth Bale. Gareth Bale, lui, il était un peu plus dépendant de ça. Alors que Benzema, ben, une fois que Ronaldo il est parti, Bale est parti, etc., on a vu que lui, son style de jeu, il est resté similaire et il continuait à aider ses coéquipiers, tu vois.
C'est juste l'importance qu'il a pris, mais le joueur
pas
a tellement
changé. Et quand tu regardes autour de lui, c'est juste qu'il n'y avait plus un Cristiano Ronaldo, il y avait Vinicius qui arrivait sur le côté droit, Rodrigo, etc. mais c'était pas Cristiano Ronaldo, donc il avait quand même cette image de bah, c'est lui le leader.
Et il a surtout assumé ses responsabilités parce que c'est devenu l'attaquant. Quand tu dis que c'est resté un peu le même joueur, mais il a beaucoup plus staté, c'était vraiment l'attaquant. Ouais.
C'est sûr.
Ne voulant pas rester dans l'ombre de Lionel Messi, Neymar a décidé de quitter le Barça en 2017 pour rejoindre le PSG, en devenant par la même occasion le joueur le plus cher de l'histoire du football. A-t-il eu raison de quitter le club ?
Non.
Merci, au revoir, allez, ciao.
Moi, je veux dire oui, mais...
La suite a donné la réponse à cette question, mais quand on y repense dans l'idée, je pense que le Neymar du Barça ne pouvait plus se permettre de rester dans l'ombre de Messi. Je me rappelle que lorsqu'il signe au PSG, on se dit que voilà, il va prendre une dimension totalement folle.
C'est vrai qu'il a très, très bien commencé à Paris.
Oui,
c'était incroyable.
C'était jamais vu.
Ça faisait peur.
À l'échelle de la Ligue 1, bien sûr, mais je me souviens que même en Ligue des Champions,
c'était le meilleur buteur. Je crois qu'il a fini 3e meilleur buteur alors qu'il s'est fait éliminer en 8e, tu vois.
Ouais, et qui sait combien de fois il s'est blessé aussi, surtout ça.
Mais non, mais je pense qu'à cette époque-là, il avait raison de le faire. Pourquoi ? Parce que pour moi, sur la dernière saison au Barça et sa première saison au PSG, pour moi, c'était le meilleur joueur du monde à ce moment-là. La remontada, c'était lui. Le match contre la Juventus, c'était lui.
Ouais.
Il a mis 4 passes décisives aussi cette année-là en un match. Mais c'était quasiment, voire l'un des meilleurs joueurs du monde avec un niveau presque pour moi historique. Mmh. C'est presque jamais vu pour moi dans l'histoire du football.
Pour conclure ce premier versus, lequel entre ces deux trios a le plus marqué les esprits et le plus culte ?
MSN pour moi.
MSN.
J'ai aussi la MSN, mais je banalise pas ce qu'a fait la BBC, surtout sur cette régularité, sur plusieurs années, surtout en Ligue des Champions. Mais
ouais. Moi, je vais dire la BBC pour une raison.
Madrilène.
On va mettre ça de côté, mais le triplé en Ligue des Champions, j'ai pas le souvenir qu'une équipe ait déjà fait ça dans l'histoire de la LDC. C'est quand même exceptionnel.
La question que je poserais, c'est quel prime a été le plus impressionnant ? Parce que si on parle de prime... Je pense que la MSN, il n'y a pas de débat. Il y a des périodes de la MSN où
c'est vrai c'était si on parle incroyable. Des champions, des statistiques, des trophées, etc. BBC.
Pour moi, c'était pas la BBC, la Ligue des Champions, c'était Ronaldo, tu vois. C'était 17 buts.
Ouais. Il y a des moments marquants de Bale aussi sur la finale.
Ouais, la finale, contre Liverpool, bien sûr. Mais
c'est lui qui.
Pour moi, il y a pas.
Et c'est surtout moi, c'est surtout Benzema. Quand on voit ce qu'il est devenu par la suite, on se dit peut-être qu'il était peut-être pas à sa place dans ce trio. Alors que
la MSN, c'est vraiment les trois qui étaient.
C'est ça, exactement.
Qui étaient impactants en fait dans le jeu.
Donc pour
c'est
moi,
peut-être ça aussi finalement la différence entre ces deux clubs, parce que dès qu'il y en a un qui a quitté le trio à la MSN, ils ont eu du mal à retrouver, le même niveau. Ils ont essayé de remplacer Neymar par Philippe Coutinho.
On a vu
le résultat. Alors qu'à la BBC, lorsque Cristiano Ronaldo a quitté le club en 2018, ça n'a pas empêché le Real Madrid de rester un club performant et d'avoir une efficacité devant les buts. Donc au final, le club est au-dessus des joueurs, là où au Barça... C'est les joueurs qui ont une certaine importance et qui ont le prestige du club sur leurs épaules. Au Real, c'est différent.
Je pense que la gestion du club du Real Madrid, c'est la meilleure gestion du monde. Il n'y a rien à dire sur ça. Quand tu as un président
comme Florentino... C'est le club le plus bankable aussi,
déjà, il y a ça. Mais la gestion
plus
de grand club de l'histoire, il n'y a rien à dire.
C'est même le plus grand club sportif de l'histoire, le Real de Madrid.
Pérez, c'est peut-être le plus grand... président
sportif aussi.
Il a pas fait d'état d'âme quand il a fallu séparer de Ronaldo. Pour lui, Ronaldo.
Il est d'ailleurs parti comme un malpropre. Il a eu le droit à une vidéo sur YouTube en mode Gracias Ronaldo.
C'est impressionnant cette faculté qu'ils ont à chaque fois de. Je me rappelle
de passer à autre chose en fait.
C'est ça exactement.
Regarde nous, on pense encore à Messi, c'est chaud.
On pense à Messi, on pense à Dembélé. Je me rappelle aussi de l'échec Hazard. Ils ont essayé de remplacer Ronaldo par Hazard, ça a pas marché, mais c'est pas grave. Il y a des Rodrigo, il y a des Vinicius.
Vinicius, il est arrivé.
Cette faculté à passer à autre chose, et que ce soit Ronaldo ou même Sergio Ramos ou plein de légendes comme ça.
Dingue.
Tu faisais référence à la gestion du club, c'est un modèle totalement, oui.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce versus qui opposait la MSN et la BBC.
Concentrão, quem é esse jogador?
Jogador, sim.
Concentrão.
Coentrão, aí está. Coentrão.
Muy bien. Coentrão es un jugador muy bueno. Tenía demostrado en los últimos años en Benfica que era un gran jugador. Y estamos contentos con ello aquí.
¿Estás concentrado?
Vale. Estoy concentrado, sí.
Tout de suite, le conseil de classe de Lionel Messi.
Si Marc est là, on s'en va.
Le coup franc de Messi.
Et oui, qu'est-ce que vous voulez dire, d'accord? Vas-y, dis-moi maintenant, quel que les autres. Lui, quand il faut décider, quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le...
courage. Voilà, il y est. Personne, tout le monde croit qu'il va la mettre par-dessus. Et un premier poteau, au deuxième. Encore une fois, cette fois-ci, il ne l'est pas. Mais le rouge à lèvres, il a coiffé, il lui a mis le numéro. Tout, il râle où il la met, pique. Voilà, et si vous voulez pas vous lever même à 11h du soir et crier Messi, Messi, sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames. Peu importe la nationalité, peu importe ce que vous voulez, mais on est devant un monstre.
Chanson de PES 2009 pour ceux qui ont reconnu. Aux côtés de son rival portugais, l'Argentin représente à merveille les valeurs du football. Le talent inné, la passion, le spectacle à l'état pur, le collectif, voilà ce qu'il incarne auprès des fans et des connaisseurs. Dès son plus jeune âge, il éblouissait tout le monde sur les terrains. Il était destiné à un avenir glorieux. Et vous savez quoi ? On ne s'est pas trompé. Véritable légende du FC Barcelone, il était une institution dans une institution, la vitrine du club, la fierté de la ville où il nous a offert des moments d'anthologie. C'est avec les Catalans qu'il s'est fait un nom et qu'il a changé à jamais l'histoire du foot. Surnommé la Pulga, il a remporté tous les titres possibles. Il est détenteur de 8 ballons d'or, un record absolu dans cette discipline. Après un départ forcé et marquant du FC Barcelone, il a été accueilli en tant que roi au PSG. Mais l'Argentin n'a jamais été heureux à la capitale, un état d'esprit qui se ressentait dans ses performances. Beaucoup auraient aimé le revoir refouler la pelouse du Camp Nou pour achever son histoire de la meilleure manière. Finalement, cette fin n'est jamais arrivée. À 36 ans, Lionel Messi termine sa carrière sous les palmiers de Miami Beach en MLS, tout en continuant de s'amuser et de battre quelques records au passage. Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, Messi à l'Inter Miami. Les deux GOATs qui ont révolutionné le football lors de ces 15 dernières années ont quitté la scène européenne. Ça officialise la fin d'une ère magnifique que l'on retrouvera probablement jamais. Donc, avant que vous donniez vos points sur 10 pendant ce conseil de classe, Lionel Messi, ça évoque quoi pour vous ?
Je pense pour la même chose.
Ouais, les Berry.
Non, mais honnêtement, pour tous les amoureux du football, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Et pour moi, il n'y a plus de débat depuis longtemps. C'est le plus grand joueur de tous les temps qui a frôlé les pelouses, le plus grand talent, le joueur le plus complet. Peut-être pas le plus beau, mais c'est dommage. Sinon, ça aurait fait sa légende. Mais bon, voilà. Le plus grand, quoi.
Berry.
Pour moi, ben Messi, c'est la magie, c'est le football, c'est le talent.
C'est le meilleur de tous les temps.
Pour moi, c'est le meilleur.
Au-dessus d'un Maradona, d'un Pelé.
Oui, oui,
après, c'est compliqué parce que moi, quand je parle avec mes oncles, mon grand-père, c'est difficile de comparer les époques parce que c'était pas le même football.
Ouais, vrai,
les défenses à l'époque, on se pose souvent la question, est-ce que Messi à l'époque aurait été Messi ou est-ce que Maradona aurait été Maradona aujourd'hui ?
Maradona, ce qu'il faisait, c'était fort sur les terrains.
C'est ça exactement.
Avaient, c'était le niveau d'un Messi, mais la différence c'est que Messi il mettait 60 buts par saison et qu'il a fait ça pendant 15 ans là où Maradona était bon
c'est
pendant
cette régularité.
Les statistiques, il y a aussi les blessures qu'il a pas eu.
Aussi, ouais.
Ça, contrairement à.
Ah, c'est une régularité.
Oui, mais c'est un Maradona avec le meilleur.
Vous savez quoi ? On va commencer sans plus attendre avec le premier critère de ce conseil de classe, la carrière. Et là, voilà, que dire, hein. Il est footballeur professionnel depuis 2003, donc ça fait 21 ans. Ouais. 3 clubs, FC Barcelone, PSG, l'Inter, Miami, 10 Ligas avec le Barça, 7 Coupes du Roi, 8 Supercoupes d'Espagne, 4 Ligues des Champions, 2006, 2009, 2011 et 2015, 3 Supercoupes de l'UEFA et 3 Coupes du Monde des clubs. Avec le PSG, c'est 2 Ligue 1 et 1 Trophée des Champions. Miami, une League Cup et une Coupe des États-Unis. Au total, c'est 914 matchs pour 729 buts, 7 records mondiaux, 9 records européens, 17 records en Liga, un record en Amérique du Sud, 9 records en Argentine, 13 records au FC Barcelone. C'est plus de 300 distinctions personnelles, dont les 8 ballons d'or, un record absolu. Et avec l'Argentine, c'est 187 matchs pour 109 buts, 2 Copa América en 2021 et en 2024, là récemment. Et une médaille d'or olympique. Ah, on l'a oublié, mais il a joué pour l'Argentine lors 2008, des Jeux olympiques de 2008, Pékin, il me semble.
Oui, c'est 2008.
Et je pense le dernier trophée qui lui manquait, et pas des moindres, la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Pour la carrière, combien vous donnez ? Vas-y, Berry.
Sur combien ?
Ça te brûle les lèvres. Sur 10. Je mets 14, 10. Ça va être assez.
Je vais mettre une grosse note. Hein. On va rester cohérent, 10 sur 10, hein. Il n'y a rien à dire, je pense. Ça.
Malik ?
10 sur 10. Ouais, honnêtement, 10 sur 10, en termes de carrière, je pense pas. Et en termes de carrière, surtout de régularité, je pense pas que c'est sa moins bonne saison, c'est quoi ? C'est 25 buts, 20 buts.
Plus. Ah oui,
c'est ouais, sa moins bonne jeune, saison, pour, à titre de comparaison. C'est énorme.
C'est ce qui fait.
Et le seul peut-être point noir de sa carrière, ça aurait été ouais, le PSG, mais c'était surtout avant, c'était peut-être l'Argentine. Ouais. Mais depuis 2022 et même avant avec la Copa América, il a complètement éteint le débat.
Ah, vous n'êtes pas prêt pour ce que je vais dire. Maxime, 10. Écoutez, je vais rester objectif. Je vais mettre la note de 9 sur 10. Il y a un point que je ne mets pas pour deux choses. Un, son départ du FC Barcelone pour le PSG. Pour moi, ça me dérange un peu dans le sens où ça va nuire un peu à sa légende. Il y a un truc qui a entaché sa carrière, c'est ce départ au PSG où, au final, il n'a pas été décisif. Qu'il soit là ou pas, ça n'aurait rien changé. Je veux dire, ils ont gagné la Ligue 1 comme ils ont gagné les Ligue 1 autrefois. Ce n'est pas lui qui a fait basculer le PSG dans une dynamique glorieuse. C'est comme pour CR7 à Al Nasser. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, ces deux-là, ils ont entaché un peu leur légende et leur carrière. Et le point qui me dérange le plus, moi, c'est les 8 ballons d'or. Il y a facile des ballons d'or qui, pour moi, ont été donnés de manière totalement injustifiée. Juste parce qu'il y a un lobbying autour de Lionel Messi. D'ailleurs, ça m'intéresse de faire le listing avec vous. Donc en 2009, c'est son premier ballon d'or. Là, il n'y a rien à dire, c'est mérité. 2010, par contre, là, Iniesta, Xavi, champion du monde. Et ils ont également été décisifs avec le FC Barcelone. Et puis, il y a Wesley Sneijder, triplé avec l'Inter de Milan. Ligue des champions, Serie A, Coupe d'Italie.
C'était pas le niveau...
Une énorme Coupe du Monde. Finaliste de la Coupe du Monde.
Pour moi, même Xavi,
Iniesta, c'est un truc que beaucoup de gens oublient. Ça reste un trophée individuel. Il y a les trophées collectifs qui aident, les résultats, etc. Mais footballistiquement, ce qu'il a montré en 2010, c'était en 2009, en 2011 et en 2012, j'en parle même pas.
Après, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que les règles elles changent souvent. Tu vois, je laisse pour.
C'est individuel, mais on lui a quand même donné en 2023.
Pour le collectif,
tu vois, alors que individuellement, Haaland.
Ça, je peux entendre, tu vois, par exemple. Ça, je l'entends, moi. Mais après, c'est vrai que si on parle de meilleur joueur du monde, il n'y a pas photo. C'était Messi.
Oui, ça, d'accord.
Mais c'est vrai qu'on a l'impression que parfois, on chipotait un peu. Ça, je peux entendre.
C'est vrai que pour les règles, ils ont un peu changé à chaque fois. Comme s'ils faisaient un peu
en fonction. Et ça allait en faveur de
Messi. Après, ce n'est pas la faute de l'institution Ballon d'Or. C'est les gens qui votent, c'est les entraîneurs, c'est les joueurs. Donc, à un moment, s'ils sont matrixés par Messi, qui veulent à tout prix qu'ils gagnent un nouveau Ballon d'Or.
Je veux dire, par exemple, tu aurais pu le donner des autres années aussi, ou par exemple, même s'ils gagnent pas en 2019 par exemple, il finit 5e au Ballon d'Or, c'était le meilleur joueur du monde. Pour moi, il était monstrueux.
2011-2012, les Ballons d'Or sont mérités. 2015, il y avait quand même Neymar qui avait fait le triplé LDC Liga Coupe d'Espagne. Sur une saison, c'est 39 buts et 7 passes décisives en 51 matchs. Neymar, à ce moment-là, il était au prime. S'il y avait une année où il méritait un Ballon d'Or, c'était en 2015.
Moi, je t'aurais donné plus en 2017, par exemple.
Ouais, pareil. J'allais dire ça.
Parce qu'en 2015, Messi, c'est plus de 50 buts.
Hein. Ouais, mais en 2017, Cristiano Ronaldo, il avait fait encore une saison.
Ouais, moi, je te parle de meilleur joueur du monde. Tu vois, Ronaldo, c'était le meilleur buteur.
Les stats, ça compte aussi. Hein. Puis, il y avait les trophées qui
allaient
avec.
Mais c'est ça qu'il faut voir. Comment est-ce que tu définis le meilleur joueur du monde ? Pour moi, dans mon amour du football, c'est pas ça. Tu vois. Ronaldo a été l'un des meilleurs joueurs du monde en 2013-14. Il était injouable, par exemple. 2008 à Manchester United, j'en parle même pas. C'est un des joueurs qui m'a fait aimer le football avec Kaka. Voilà. Incroyable. Mais pour moi, le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur du monde. Donc, des années où je peux comprendre, par exemple en 2022, tu aurais pu le donner à Haaland, pour moi plus mérité qu'un Messi, parce qu'il avait des tâches d'ombre en tout cas au PSG. Mais sinon, il y a d'autres années où tu aurais dû lui donner aussi. Donc,
surtout pour faire référence à l'année 2015, où peut-être il y a pas un débat avec Neymar, mais ça reste quand même Messi l'atout numéro 1 de cette MSN. Voilà, je me souviens, c'est lui qui débloque cette rencontre
but, là,
contre
en
le Bayern.
De Coupe du Roi contre, je crois, l'Atlético Bilbao.
Il a des moments marquants.
Le Bayern, où il fait.
Et tout ça qu'il fait dans ses
L'amour sans préliminaire à Boateng.
C'est trop.
Ça reste quand même. C'était le meilleur buteur de la MSN, le meilleur passeur.
55 buts, je crois.
Neymar, il a été très fort cette année-là, pour moi, mais en tout cas, 2015, pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, là où il y a un débat, mais ce n'est pas un ballon d'or de Messi, c'est 2013.
C'est Franck Ribéry.
Moi, Ribéry, il doit l'avoir.
Je suis d'accord, mais d'à côté, la saison de CR7
a été monstrueuse aussi.
Si on reste encore dans les statistiques
individuelles. Pour moi, le meilleur joueur du monde, c'était Ronaldo. Mais après, c'est vrai que si tu regardes statistiquement, tu aurais dû le donner à Ribéry, mais pour moi, il n'y avait pas photo entre Ribéry
et pourtant, franchement, moi-même, je l'aurais donné à Ribéry. Je trouve qu'il le méritait.
Comment est-ce que tu...
Ça dépend. En tout cas, s'il avait gagné, ça m'aurait pas choqué.
Pas du tout.
Mais moi, sur l'année 2023, du coup, le ballon d'or de Messi, moi, je suis content parce que je suis un fan de Messi.
Ouais, bien sûr.
Mais tu le donnais à Alan, Zidane cette année-là.
Par contre, pour la prochaine cérémonie, parce qu'il a gagné la Copa América, si on continue à lui donner un ballon d'or, mais on n'est pas à l'abri.
Tu fais référence au ballon d'or 2023, c'est l'année où Messi remporte la Coupe du Monde.
Ouais, non, oui.
Donc je me dis que si tu ne donnes pas le ballon d'or.
C'est quelle Coupe du Monde surtout, voilà,
c'est ça. Oui, en fait, c'est ça. Surtout.
Même si ça a été un mois, puis ça a été.
Et surtout, le problème avec Haaland, c'était l'attaquant de Manchester City, mais je me rappelle qu'il y avait des débats où. On se demandait si Haaland était le meilleur joueur de City. Il y avait Rodrigue
ce qui a coûté le ballon d'or à Haaland, c'est la finale de la Ligue des Champions où il était un peu transparent.
C'est la demi-finale. C'est son carré final. Il a été très mauvais.
Déjà, il y a son carré final. Et simplement, malheureusement, c'est sa nationalité.
Il n'a pas participé à la Coupe du Monde.
Je peux vous assurer que cette année-là où Manchester City rafle tout, vous pouvez demander aux supporters de City. Mm-hmm. Je pense qu'ils mettent peut-être Rodri devant, De Bruyne qui avait fait une saison énorme. Et donc ça répartit les votes.
C'est ça.
Alors que Messi et l'Argentine, c'était Messi et personne d'autre.
Je crois qu'à part Maradona, personne n'a fait ce qu'il a fait en Coupe du Monde.
Non, je pense que le dernier Ballon d'Or, il n'est pas si controversé que ça. C'était l'année de Messi, l'année de la Coupe du Monde de Messi.
Et on continue dans les Ballons d'Or. Sixième Ballon d'Or pour Lionel Messi en 2019. Alors qu'il y avait peut-être l'occasion d'enfin récompenser d'autres postes que les secteurs offensifs. Je pense à Virgil van Dijk qui remporte en 2019 la Ligue des Champions avec Liverpool. Il avait fait une excellente saison. Je pense qu'il a même été décisif et incontournable avec les Reds.
Ouais, je pense.
Est-ce qu'il aurait pu le gagner, van Dijk ? Est-ce qu'il le méritait ?
Le problème, c'est souvent, c'est le poste, c'est défenseur. Tu sais, il y a aussi des gardiens comme Neuer en 2014, qui était monstrueux, qui aurait pu le gagner en soi, tu vois, Buffon en 2006.
Ouais, la dernière fois qu'un défenseur a remporté un ballon d'or, c'était en 2006 avec Cannavaro.
Quelle honte.
Un ballon d'or,
je pense que c'est à partir de ce moment-là on s'est dit on va plus jamais le demander.
C'est vrai que c'est dommage. Regarde même des Ramos.
Pour moi, Van Dijk cette année-là, en
Ramos, Marcelo, Carlos Puyol.
Je pense que c'est cette année-là, 2019, Van Dijk, ça avait été vraiment, vraiment le joueur de Liverpool qui avait remporté la Ligue.
Et c'était le meilleur joueur en défenseur central.
C'est ça.
Et 2021, alors 2020, il n'y a pas eu d'attribution du Ballon d'Or en raison du Covid, alors que Lewandowski le méritait. Et en 2021, Lewandowski le méritait également, puisqu'il était au prime au Bayern. Et d'autant plus que Messi ne gagne rien en 2021. Mais vraiment,
Copa América.
C'est vrai. Donc là encore.
Et c'était son premier trophée avec l'Argentine aussi.
Il y a toute la symbolique, il y a tout le monde qui vote pour lui.
Vas-y, il me casse les couilles, je vais mettre 8 là.
Non, et puis aussi, pour moi, j'adore Lewandowski, mais c'est pas le meilleur joueur du monde.
Pour moi, l'année où ils ont retiré le ballon d'or.
Oui, c'était lui.
Il méritait. C'est comme Benzema. Comme l'année de Benzema.
Ils réfléchissent à lui donner le ballon d'or pour 2020. Oui, ce qui est un peu con de lui donner 4 ans plus tard, mais pour la symbolique, ils se disent on va peut-être lui donner.
Par exemple, en 2020, pour moi, Neymar est beaucoup plus impactant dans un match qu'un Lewandowski. Lewandowski, c'est un buteur, un tueur, mais la campagne qu'a fait Neymar en Ligue des Champions, il a beaucoup plus été porté.
Mais après, on connaît les circonstances de cette Ligue des Champions. Pas de match retour, éliminatoire direct, 8-2 contre le Barça. Ils ont quand même été plus.
Ils devaient le placer.
Non, je suis d'accord.
Pour être objectif, cette année-là, Lewandowski méritait le ballon d'or. Et je pense, même l'année d'après où Messi le remporte en 2021, quand il reçoit son trophée, il dit qu'il ne comprend pas comment Lewandowski n'a pas été récompensé. Mais surtout les raisons qui avaient été données par France Football pour certains championnats qui avaient été stoppés dû au Covid, alors que d'autres avaient été continués, ça pouvait paraître un peu inéquitable.
Ils avaient donné le ballon d'or à un joueur du championnat bulgare.
C'était leur raison en tout cas, mais c'est vrai que pour moi.
Petrushka.
On les connaît aussi là. Eux, c'est quand ils veulent.
Et le ballon d'or est décerné à Mudryk.
Ah ouais. Ah là, j'ai crié.
Parce que la guerre en Ukraine, donnez-lui. Et bon, 2023, on est déjà revenu dessus. Le premier critère est terminé. Et on passe au second, le style, la personnalité, le talent de Lionel Messi. Je pense que ça va être très rapide.
10 sur 10,
voilà, très bien. 10 sur 10, très bien.
Je peux changer ma note. Oui. Je savais pas qu'il y avait... Moi, je pensais qu'il y avait que talent.
Non, vas-y, tu peux changer.
Un petit 9. Ouais. Personnalité, ça
moins 1 pour
peu,
la personnalité aussi.
Je trouve
oui,
qu'il a pas de personnalité. Lionel Messi.
Son talent, ça fait 20 et sa personnalité, ça fait 10. Donc, ça fait quand même 10 sur 10 pour moi.
Ce talent est tellement... Même si on a vu en fin de carrière avec l'Argentine, surtout, on lui reprochait de pas être un leader. Il y a des images...
Choquante, hein. Du monde, il a son caractère là.
Non, en vrai, c'est un leader. Plus leader en Argentine qu'il l'est au FC Barcelone.
C'est sa personnalité.
Je sais pas si vous avez vu cette image pendant la Copa América où t'as tous les joueurs de l'équipe qui attendent dans les couloirs. Et puis d'un coup, Messi arrive. Il s'écarte tel Moïse qui vient séparer la mer en deux. Et il est là. Allez, les gars, on y va. Et hop, il le suit.
Il vérifie s'il y a tout le monde. Et puis on est parti.
Il y avait aussi ces images dans les vestiaires. C'est avant la finale.
Il y avait vraiment l'instituteur qui vérifie que tous les enfants sont là avant de rentrer dans le quart, tu vois.
Non, ce côté leader, il a beaucoup plus avec l'Argentine.
Ouais, il était tellement leader sur le terrain. Et tu sais, il y a différents.
Ouais, il y a le leader technique. Oui,
il prenait le ballon, il dribblait. Busquets, il lui donnait la balle, il dribblait toute la défense de Madrid pour aller marquer. Tu vois, c'est ça aussi.
Mais son côté leadership, en tout cas, si je prends le cas de l'Argentine, depuis que Scaloni est arrivé, il a fait très très fort parce qu'il a réussi à faire ce que les autres entraîneurs de l'Argentine n'ont pas réussi à faire. Il s'est créé une équipe autour de Messi. Parce que quand t'as un joueur comme ça, je suis désolé.
C'est pas un peu dangereux de faire ça? Parce qu'une fois que Lionel Messi va prendre sa retraite, qu'est-ce qui va en devenir de cette équipe?
C'est risqué. Mais ouais, au final, pour le Barcelone, au final, il a gagné tous les trophées qu'il a joué.
Bien sûr. Et tu faisais référence à si c'était une mauvaise chose ou pas. On l'a vu même à la dernière Copa América, il y a un mois à peine. On l'a vu, Messi n'était pas à son niveau. L'Argentine a quand même, voilà, c'est ça, et ils ont quand même remporté cette.
C'est
cette
un truc que l'équipe du Portugal n'a pas pour Cristiano Ronaldo. Il ne joue pas pour Cristiano.
Ouais,
c'est peut-être ça qui est dommage, ils s'en foutent de
mais
Cristiano.
C'est le même standing de joueur, mais pas le même style aussi. Hein. C'est compliqué de jouer pour un attaquant statique. Tu vois, Messi, c'était un milieu de terrain qui a beaucoup de liberté dans le jeu aussi, donc c'est plus facile de créer une équipe autour de lui.
Ouais, le gars, il était genre faux neuf, voilà, il se retrouvait milieu défensif.
Messi, c'est un maillon libre. Quoi.
Et quand tu vois l'équipe de l'Argentine, c'est surtout 10 guerriers, ils sont là, ils se donnent à fond.
Comme pour Maradona à l'époque. Quoi,
c'est vraiment les deux joueurs qui me choquent en Argentine, c'était De Paul et
Paredes. Oui. Et je pense que pour faire le parallèle avec
carrément Messi tatoué sur le dos.
Ouais, c'est trop.
Pour faire le parallèle,
je vais pas rigoler parce que je suis capable de le faire.
Pour faire le parallèle avec l'équipe du Portugal, je pense que tu vas pas demander à Bernardo Silva de tacler pour Ronaldo, demander à Rafael Leão, ils sont pas capables de le faire et je pense qu'ils veulent pas le faire. Alors que du côté de l'Argentine, c'est des guerriers qui donneraient leur vie. On le voit même les images où ils sont capables de se mettre à genoux pour Messi.
Ouais, on aura l'occasion de parler de Cristiano Ronaldo autour d'une émission spéciale sur le Real Madrid. Comme ça, c'est annoncé. Troisième critère, l'influence. Alors déjà, quelques chiffres par rapport à sa présence sur les réseaux avant de vous donner la parole. Il n'a que deux réseaux sociaux. Il est sur Insta, 504 millions de followers et Facebook, 117 millions. Pourquoi est-ce que je parle de Facebook en 2024? Je ne sais pas. Mais voilà, les chiffres sont là. Après, là, pour le coup, je ne peux pas mettre autre chose que 10 parce que l'influence dans le football, voilà, il est inégalable. Il a le palmarès parfait. Voilà. Je veux dire, c'est un ambassadeur pour tellement d'associations, pour tellement de marques.
Tellement d'accord.
Il symbolise quelque chose d'assez opposé à Cristiano Ronaldo. Ronaldo, c'est quand même l'hygiène de vie irréprochable, le travail pour avoir des statistiques de dingue. Honnêtement, Messi, il n'a pas une hygiène de vie si extraordinaire que ça.
Je pense que c'est mensonger.
Le mec, non, c'est vrai.
Moi, je pense que c'est mensonger. Ça.
Tu peux pas rester à ce niveau-là.
Non, tu peux pas. C'est impossible.
Non, mais
impossible.
Je veux dire, c'est pas non plus. Il se bouffe pas un pot de Nutella par jour, quoi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux dire, le mec, il fait quand même campagne marketing pour Pepsi. Il mange des trucs pas très sains, mais je veux dire de manière raisonnée, il a pas non plus le physique.
Il
est athlétique, mais par rapport à un Cristiano Ronaldo ou même un Mario Balotelli à son prime. Ah, c'était pas ça, quoi. C'était un autre niveau. Et pourtant, il est devenu le meilleur joueur du monde, tu vois. Et je trouve ça quand même remarquable, franchement.
Ouais. Moi, je pense que la différence entre Messi et Ronaldo, au niveau de leur image, déjà, il y en a une grande, parce que quand t'as un Ronaldo qui, même actuellement, tu le vois, il est dans son sauna avec sa femme, tu vois, il va courir, il va faire du vélo. Tu vois, il montre vraiment que... C'est quoi ?
Il se met bien.
Il fait du sport, quoi. Il se met bien. Non, mais il montre vraiment qu'il continue à entretenir son hygiène de vie, alors que tu as un certain Messi. Lui, il ne va pas montrer ça, tu vois.
C'est deux personnalités différentes.
Je pense que c'est deux ambitions différentes. Maintenant que Lionel Messi a remporté tout ce qu'il avait à remporter, je pense que là, il va juste s'amuser, continuer jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Là où, par contre, Cristiano, il a des ambitions peut-être démesurées vu son âge. Il veut continuer jusqu'à 43 ans. Il a même l'objectif de faire un match officiel avec son fils. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il continue.
Ça serait fort. Et qu'il perde contre la mini-amal, je serais content.
vos notes pour l'influence.
10 sur 10.
D'accord, 10 sur 10 également. Sur 10, ouais, 10 sur 10 peut-être aussi.
L'influence dans le football, 10 sur 10. Ailleurs, que ce soit peut-être dans les réseaux, dans les trucs un peu comme ça, il est un peu en dessous. Mais oui, c'est le joueur le plus influent de tous les temps. Quoi.
Et enfin, le ressenti personnel.
10 sur 10, je ne suis pas trop... polémiquer là-dessus.
12, d'accord, je note.
Moi, je peux pas être objectif, donc c'est 10.
Ok, ressenti personnel, moi je mets la note de 4 sur 10. Pour son talent exceptionnel, mais franchement, moi c'est un joueur, je trouve qu'il ne dégageait rien en termes de personnalité. Il y a des vidéos que je vois de lui sur les réseaux où on se fout de sa gueule, ouais, où non, on reprend des moments en mode mignon. Je sais pas si vous avez vu cette campagne marketing pour le film Bad Boys avec Will Smith.
Bad Boys
où il toque à la parole. Bad Boys
après, il voit des mignons.
Oui,
faire des trucs comme ça après vous.
J'étais mort.
Ah, c'est pour ça que je disais que sur le terrain il a pas d'égal, ouais. Et peut-être en dehors, mais en dehors. Mais comme tu l'as dit, c'est pas sa personnalité. Il
bon
peut
t'as
pas,
un demi milliard sur les réseaux sociaux, à partir du moment où tu mets un post pour Pepsi, ça va augmenter,
c'est
comme ça,
voilà. C'est quand même, je pense qu'il est pas, il est pas réseau, il est pas du genre à afficher sa vie, sa femme. On va pas lui demander de faire quelque chose qui maîtrise pas, tout simplement.
Et malgré mon 4 sur 10, il récolte quand même la moyenne de 9,4 sur 10. Donc pour le moment, c'est l'élève avec la meilleure note dans le conseil de classe de complètement culte avec cette émission spéciale. Et c'est ainsi que le conseil de classe de la Pulga, Lionel Messi, se conclut dans Complètement Catalan.
Argentina con Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final.
Qué mira, bobo. Anda para allá, bobo. Anda para allá.
Tranquilo, Leo.